Il est 19h58, vous écoutez toujours Transistor pour ce grand direct de la Saint-Valentin. Et il est même 19h59 à une minute près, ce sera l'heure du journal radiophonique amplifié et même le numéro 61 du journal radiophonique amplifié. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est le vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais l'actu ne s'arrête pas pour les amoureux et pour les gens de Transistor, c'est pareil. Écoutez donc l'actu mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié. Au programme ce soir, on va parler BlackRock, on va parler Macron municipal, César, Brexit, Syrie. Il va y avoir de la musique et de la culture. Et on commence tout de suite avec du national. Et avec toi, Martin, tu vas nous parler d'une action qui a eu lieu cette semaine.
Oui, lundi 10 février, à 8h30, alors que nous étions confortablement en train de dormir dans nos lits respectifs, enfin, moi je l'étais, des militants de Youth for Climate se réunissaient pour mener une action collective, d'abord contre la Société Générale. Le quartier étant bouclé par la police, bien avant le début de l'action, vers 11h, une centaine de manifestants pénètrent les bureaux parisiens du gestionnaire d'actifs BlackRock. Après avoir soigneusement remis en ordre le site, celle-ci vide les lieux vers 13h, sortant pacifiquement du bâtiment. L'action a mené à 17 interpellations, dont 4 mineurs. Rappelons-le, BlackRock, soupçonné d'avoir influencé le gouvernement dans la confection du nouveau système de retraite, système qui profitera sûrement à l'entreprise, est aussi un investisseur majeur dans nombre de projets écocides, soutenant par exemple Total, Vinci ou BNP Paribas. Et pendant ce temps-là, sur France Inter, radio publique, rappelons-le, Dominique Seux se désole des violences faites aux meubles, craignant, et on le comprend, une montée des violences faites aux personnes, oubliant seulement que les réfugiés climatiques en sont des personnes.
Merci Martin. Et Nicolas, tu vas nous parler d'un petit rebondissement dans les municipales à Paris, je crois.
Bon, alors vous l'aurez probablement, pas raté, c'est en une de tous les grands médias français, Benjamin Griveaux se retire pour Le Parisien, Le Monde et France 24, retrait de Benjamin Griveaux pour le Huffington Post et France Info. Alors déjà, attention, c'est pas un moyen de contraception très efficace de se retirer. Bon, restons sérieux. Puisque cette affaire l'est. Sérieuse. Commençons avec l'origine de l'histoire. Hier soir, le sulfuré député Joachim Son-Forget, ex-LREM proche de Marion Maréchal Le Pen et du forum 1825 de jeuxvideo.com, relaie des photos et une vidéo pour le moins étrange. On en connaît maintenant la source, Piotr Pavlensky, un artiste russe qui avait notamment incendié la façade d'une succursale de la Banque de France en 2017. Interrogé par Libé, l'artiste affirme, je cite, « tenir cette vidéo où on voit Benjamin Griveaux envoyer des dick pics d'une source qui avait une relation consentie avec Benjamin Griveaux. » Il dit avoir voulu ainsi, je cite, « dénoncer l'hypocrisie de l'ancien porte-parole du gouvernement. » Griveaux s'est donc retiré, hein, puisque le mot est fort, de la course à la mairie de Paris, posant la question de qui récupérera l'investiture LREM. On entend pour l'instant tourner les noms d'Agnès Buzyn et Marlène Schiappa. Non, je ne déconne pas. Bon, on a très envie de se jeter sur quiconque est membre du gouvernement en ce moment, mais c'est une affaire qui concrètement pose la question du revenge porn et de là où il faut s'arrêter quant au caractère médiatique de la vie politique, aussi politicienne soit-elle.
Et puisque ce soir, décidément, on n'a pas fini de parler de sexe, on va parler un peu d'égalité entre les sexes et des Césars.
Alors oui, tout a commencé avec un très court communiqué. Pour honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma en 2019, pour retrouver la sérénité et faire que la fête du cinéma reste une fête, le conseil d'administration de l'Association pour la promotion du cinéma, Académie des arts et techniques du cinéma, a pris la décision à l'unanimité de démissionner. Cette démission collective permettra de procéder au renouvellement complet de la direction de l'association. Alors, je vous ai presque lu le communiqué dans son entier. Je vous ai un peu menti parce que tout a commencé un peu avant. Ici, nous avons une démission collective et un renouvellement complet du conseil qui présidait à l'attribution des Césars. 21 personnes en tout, dont des cinéastes comme Claude Lelouch et Costa Gavras. Ça, c'était... Le communiqué est sorti hier, le 13 février 2020. L'histoire commence un peu avant et on peut faire un résumé de tous les chefs d'accusation qui ont été portés contre l'Association pour la promotion du cinéma. D'abord, son opacité. Le 10 février dernier est sortie dans Le Monde une tribune signée par 400 personnalités du cinéma réclamant une réforme des statuts de l'association qui sont apparemment très conservateurs. Ensuite, et surtout, Polanski. On le rappelle, ce personnage a été condamné en justice par la justice américaine dans une affaire d'abus sexuels sur une mineure de 13 ans en 1977. Il est encore aujourd'hui considéré par Interpol comme un fugitif. Pourtant, et grâce à des propos comme ceux de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, pour qui les faits sont très anciens et Polanski demeure un cinéaste de grand talent, le pédocriminel a failli être nominé à la présidence des Césars et mène encore aujourd'hui les nominations pour 12 prix avec son film « J'accuse ». Et cette situation, enfin, est inacceptable pour une association et un monde du cinéma qui reste encore aujourd'hui très marqué par les inégalités de genre. 35% de femmes au collège des votants de l'Académie, 28% au collège d'administration et 17% au sein de l'association en général.
Et tout de suite, on part un peu dans le massif du Mont-Blanc, puisque hier, Macron est allé voir la mer de glace fondre à Chamonix, histoire de montrer que le réchauffement climatique lui fend le cœur. Dans son discours, il a déploré la perte de la biodiversité et la fonte des glaces, mais il n'a annoncé aucune mesure à la hauteur des enjeux. D'autant plus que le 4e conseil de défense écologique qui s'était tenu la veille à l'Élysée s'était contenté d'entériner la politique des petits pas. Il a par exemple rappelé l'extension aux fonctionnaires du forfait mobilité durable pour les inciter en leur reversant 200 euros par an à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage. Pour ce qui est du massif du Mont-Blanc, il serait plus protégé par un arrêt préfectoral de protection naturelle et par la réservation obligatoire en refuge pour lutter notamment contre les bivouacs sauvages. Une belle opération de com' donc pour le président de la République et la mer de glace, elle ne va pas s'arrêter de fondre. L'international, tout de suite avec toi Marie, tu vas nous parler un peu du Brexit.
Oui, alors démission surprise en Grande-Bretagne du chancelier de l'échiquier Sajid Javid qui devait présenter le premier budget post-Brexit dans quelques semaines. Il sera remplacé par le secrétaire au Trésor Rishi Sunak, conservateur de 32 ans. Mais ce qui est éclairant, ce sont les raisons de sa démission. Le ministre des Finances aurait été forcé par Boris Johnson de remplacer tous ses conseillers politiques par des hommes de l'équipe du Premier ministre. Les relations entre Boris Johnson et son ministre des Finances n'ont d'ailleurs jamais été au beau fixe, normal quand on connaît la météo de l'Angleterre. Le Premier ministre surnommé Sajid Javid Mr. No ou Chino pour Chancellor in Name Only. L'opposition accueille avec joie cette crise survenue seulement 2 mois après la prise de fonction du nouveau gouvernement. Autre polémique, le départ de Julian Smith, secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord, chassé du gouvernement pour avoir accepté que les vétérans de l'armée britannique puissent être poursuivis pour abus durant la guerre civile en Irlande du Nord. Un remaniement qui dévoile des intentions malhonnêtes du système, mais laisse en attendant les principaux postes du gouvernement aux mains des Brexiteurs.
Et on part tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique avec Nicolas qui va nous parler des primaires américaines.
Oui, alors petit point sur les primaires. Quand du côté des Républicains, sans surprise, Trump mène la course avec quelque chose comme pour l'instant 99,5% des votes et avec 2 États par lesquels les primaires sont déjà passées. Je cite d'abord l'Iowa puis le New Hampshire. Du côté des démocrates, le combat se resserre entre Bernie Sanders et un outsider. Pour le moins, hein, c'est le mot qu'on doit utiliser. Pete Buttigieg, maire de South Bend, Indiana, très modéré par rapport à la campagne de Bernie Sanders qui réplique les mêmes codes qu'il avait utilisés en 2016. Social-démocratie à fond, quand même un peu de réformisme, mais bon, il ne faut pas aller trop loin, on est quand même aux États-Unis. Et derrière eux deux, en tout cas pour le cas du New Hampshire, on retrouve Amy Klobuchar, elle aussi modérée, puis Elizabeth Warren qui se rapproche un peu plus de Bernie Sanders, même si j'avais parlé au dernier JRA d'un différend qu'il y avait eu entre eux. On n'a pas oublié quelqu'un. Ah si, Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, qu'on retrouve seulement en cinquième position pour cette campagne. Joe Biden qui rate complètement sa campagne pour l'instant. Et on s'attend tous à une démission prochaine. Sauf s'il injecte suffisamment d'argent dans le Parti démocrate, puisque c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis.
Merci Nicolas, et tout de suite un petit point sur la Syrie, puisque mercredi dernier, l'armée turque a bombardé plusieurs localités du nord-est du pays avant d'engager une opération terrestre qui a provoqué déjà 15 morts et des milliers de déplacés, dont surtout des civils. Cette opération, tristement appelée « source de paix », est le fruit d'une coopération entre l'armée nationale syrienne et l'armée turque à l'encontre de territoires contrôlés par les forces démocratiques syriennes. Celles-ci sont une coalition de combattants dominés par les Kurdes. Alors, selon Erdogan, l'opération vise des terroristes, des unités de protection du peuple, la principale composante des forces kurdes et de Daesh. L'opération vise surtout à chasser les combattants kurdes au Nip. Par le président Erdogan, et surtout ONI pour leur lien avec le PKK, contre lequel le gouvernement est en conflit depuis 1984.